C'est peut-être l'un des débats les plus vifs au sein des sciences sociales. Que faire des enseignements apportés ces deux dernières décennies par les sciences cognitives? C'est que les deux champs disciplinaires sont dans une situation de friction très intense pour déterminer qui explique le mieux les phénomènes sociaux, les comportements individuels et surtout qui donne les clés d'une politique efficace puisque tel est le leitmotiv ces derniers temps. Les camps s'opposent, ont leurs champions, rejouent à l'infini l'opposition entre nature et culture, inné et acquis, substrat biologique et production de sens, sans crainte de verser souvent dans la caricature. C'est peut-être la sociologie qui incarne le mieux dans les sciences sociales cet affrontement. Pour faire simple, il y aurait une sociologie holiste dominante qui serait animée par d'horribles déterministes qui ne prendraient pas en compte les acteurs, et à l'opposé, une affreuse sociologie individualiste qui naturaliserait les différences sociale des sujets, on n'en sort pas. C'est pourtant le pari d'en sortir que font nos invités du jour en venant chacun d'un des deux camps avec la conviction que certains sentiers méritent d'être empruntés. À ma droite, l'horrible individualiste analytique, c'est Laurent Cordonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous travaillez sur le rapprochement possible justement entre sociologie et sciences cognitives à l'université Paris Diderot et vous publiez ces temps-ci « La nature du social, l'appel ignoré des sciences cognitives » sorti donc aux presses universitaire de France. Et à ma gauche, l'affreux holiste déterministe, c'est Hervé Mazurel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du corps, des sensibilités, des imaginaires. Vous avez longtemps travaillé sur les expériences de guerre au 19e siècle et depuis un certain temps, vous travaillez sur une histoire de la vie affective à l'époque contemporaine, dans laquelle vous vous efforcez de revisiter les relations de l'histoire et de la psychanalyse à partir de l'hypothèse de l'historicité de l'inconscient, voilà quelle est la nature de votre travail. Et vous êtes aussi l'un des cofondateurs et animateurs de la revue Sensibilité, dont le dernier numéro est justement sur les controverses sur l'émotion, neurosciences et sciences humaines. Un mot d'abord sur cette situation que j'ai un peu montée en épingle, hein, c'est un peu le jeu du débat, et pourtant vous n'allez pas forcément débattre, mais peut-être vous retrouver sur un certain nombre de points, Hervé Mazurel et Laurent Cordonnier. Un mot sur cette situation, pourquoi selon vous il est temps de se sortir de cette opposition un peu binaire, Laurent Cordonnier?
Alors oui, il faut en sortir. Je me permets juste une petite précision, c'est qu'en fait en sociologie, moi je me situe plutôt du côté des holistes.
Ah bah voilà, vous voyez, je vous ai mal lu.
Je suis pas si déterministe que ça.
Et mon propos en fait est précisément de montrer en quoi les sciences cognitives peuvent amener des choses importantes et intéressantes à la sociologie, y compris et peut-être même surtout holistes.
Alors justement, un petit point sur cette distinction entre sociologie holiste, sociologie analytique.
Alors bon, c'est une distinction historique, je suis pas sûr qu'elle fasse toujours encore énormément de sens, mais en gros, on considère qu'il y a une tradition sociologique qui remonte plutôt à Durkheim, qui passe par Bourdieu, qui est celle de la tradition holiste, qui essaie d'expliquer les phénomènes sociaux par des déterminants macro-sociologiques, si l'on veut, et une tradition plutôt individualiste qui nous viendrait de Weber, qui serait passée par Raymond Boudon, qui essaierait plutôt d'expliquer les actions, les phénomènes sociaux, en les ramenant à des agrégats d'actions individuelles raisonnables et raisonnées en général.
Hervé Mazurel, je le disais, l'hypothèse et en tout cas l'entreprise de ce dernier numéro de la revue Sensibilité, publiée chez Anna Mossa, je ne l'ai pas encore dit, l'hypothèse c'est de dire il y a quand même des sentiers communs, on peut trouver des choses bonnes du côté des sciences cognitives.
Oui, bien sûr, oui, quand on travaille sur les émotions, dans le champ des études sur l'émotion, il y a vraiment un grand sillon, un grand partage entre des gens qui s'ignorent par profession, hein, les universalistes, les neuroscientifiques, les psychologues cognitivistes qui a priori valorise l'idée que les émotions sont universelles, stables, fixées par l'organisme, en quelque sorte qu'elles sont des réponses spontanées, et puis le camp des constructivistes qui considère que les émotions ne sont pas innées mais apprises, acquises, qu'il y a une socialisation des émotions chez les enfants, qu'elles sont construites voilà socialement et culturellement, et qu'il peut y avoir une histoire des émotions, que certaines émotions émergent historiquement quand d'autres s'effacent, hein, quitte à s'évanouir encore par la suite, hein, et donc il y a vraiment deux camps qu'on a du mal à faire communiquer. Et pourtant, hein, le pari de ce numéro, c'est de montrer qu'il y a des passerelles, des ponts suspendus, on va dire, non pas avec toutes les neurosciences, mais avec certaines neurosciences qui aujourd'hui inclinent dans un autre sens, dans le sens je pense qu'il y a même un tournant constructiviste de certaines neurosciences, on en parlera peut-être tout à l'heure.
On en parlera certainement, mais un mot encore sur cette situation, Laurent Cordonnier, il faut intégrer et non pas opposer, dit Hervé Mazurel, c'est justement cette approche intégrationniste qui est celle que vous adoptez dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait, j'essaye de montrer dans cet ouvrage de quelle manière certaines connaissances, mais aussi certaines méthodes des sciences cognitives peuvent aider les sociologues dans leur démarche, parce qu'on a une image un peu naïve d'une opposition entre ce qui relèverait de l'universel, du naturel et du culturellement situé, de l'acquis. En fait, ce que nous montrent les sciences cognitives contemporaines, c'est que les deux marchent vraiment main dans la main. L'apprentissage fait évidemment partie de notre bagage cognitif. On apprend des choses, nos connaissances évoluent, nos façons d'appréhender le monde évoluent. On peut apprendre à labelliser certains types d'émotions, puisque vous parlez de cet exemple, de façon différente dans une culture ou d'une autre. Mais de façon générale, ce que nous montrent les sciences cognitives, c'est que tout ça, ça se fait sur un substrat, en quelque sorte.
Une sorte de câblage préexistant.
Un câblage préexistant, dans une certaine mesure, qui nous permet, qui est en fait largement un câblage qui nous permet l'apprentissage. En fait, notre câblage, notre pré-câblage naturel nous permet d'apprendre du social, d'apprendre de l'environnement plus général aussi, naturel et physique.
Vous donnez des exemples dans cet ouvrage, La nature du social, l'apport ignoré des sciences cognitives, publié donc aux presses universitaires de France. Laurent Cordonnier, est-ce que vous pourriez nous prendre un exemple? L'éducation, tiens, puisque c'est un thème, on a beaucoup parlé de Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui a nommé Stanislas Dehaene à la tête d'une commission d'études et d'analyse, non pas des programmes, mais plutôt des orientations qu'il faudrait donner à l'enseignement en France. Et on a dit, voilà, les cognitivistes ont pris le pouvoir sur les sociologues, ils ont gagné, et donc maintenant, c'est cette approche qui va dominer, avec évidemment cette accusation, en tout cas cette crainte, de voir naturaliser les inégalités sociales. C'est-à-dire de dire, oui, voilà, s'il y a une inégalité sociale, c'est parce que vous êtes naturellement porté, ou en tout cas, il y a un déterminisme naturel à cette inégalité.
Alors, ce que nous montrent déjà, de façon générale, les sciences cognitives, c'est que nous sommes naturellement tous très, très, très identiques. Les mécanismes et les structures cognitives et neuronales d'ailleurs sont statistiquement globalement identiques chez tous les individus, donc c'est pas là qu'on va trouver des sources de différences essentiellement. Par contre, ce qu'on peut essayer de voir, c'est comment ces structures naturelles pré-câblées permettent un apprentissage plus efficace dans certains types d'environnements. On sait, par exemple, et ça a été documenté par les neurosciences, on sait que le cerveau d'un enfant qui grandit dans un environnement familial violent ne se développe pas de la même façon que le cerveau d'un enfant qui se développe dans un environnement bienveillant où ils sont en sécurité. Donc, pour ce qui est de l'éducation, c'est pas ma spécialité en l'occurrence, mais par contre, en effet, on peut essayer de tester scientifiquement, empiriquement, au moyen d'expériences, quelles sont des méthodes qui sont simplement plus efficace pour permettre aux enfants d'acquérir la maîtrise de l'écriture ou de la lecture, par exemple.
C'est l'erreur fondamentale de Descartes d'avoir séparé le corps et l'esprit à ce point-là. Hervé Mazurel, dans l'introduction de ce numéro de la revue Sensibilité, vous soulignez le succès des sciences cognitives, leur centralité médiatique, et donc cette figure de Jean-Michel Blanquer, évidemment, est l'une de celles qui représente, qui incarne le mieux ce succès. Il y a dans le numéro un article de Fernando Vidal qui revient justement sur ce qu'il appelle le neuro à toutes les sauces, et il montre comment finalement on va tirer aussi un petit peu ces sciences cognitives, d'ailleurs il faudrait peut-être qu'on définisse après, si vous le voulez bien, les sciences cognitives, parce que je me rends compte rien qu'en le disant que ça recouvre beaucoup de choses, mais juste sur ce succès médiatique, cette prise d'importance des sciences cognitives.
Oui, c'est sûr qu'elles ont très largement gagné la bataille de l'espace public, elles sont partout. L'article de Fernando Vidal auquel vous faites référence parle des neurosciences humaines, la neuroanthropologie, la neurocritique littéraire, la neuroéconomie, et c'est un article très critique qui vise à montrer que bien souvent, certes, les neurosciences parviennent à montrer que à telle activité, à telle pensée, on a une carte cérébrale qui correspond, mais qu'il y a au fond, ce qu'on établit, c'est des corrélations, mais pas, on n'explique rien. On montre des corrélations existantes entre une activité, par exemple, de pensée ou une activité physique, et puis une carte cérébrale. Mais on a juste des corrélations et on n'a pas d'explication à proprement parler. Et donc, il faut faire attention à ça. Après, c'est quelqu'un qui va aussi montrer que il faut faire par exemple les neurosciences appliquées à l'esthétique, ce qui se passe quand on voit un tableau, quand on jouit d'une expérience esthétique, évidemment on trouve une carte et des circuits qui ressemblent à ceux du plaisir, mais on n'en sait rien, on sait rien de plus sur l'œuvre d'art elle-même et sur Cézanne ou sur Bacon. Donc il faut pas demander plus qu'elles ne peuvent aux neurosciences. Par contre, on apprend quand même quelque chose, bien sûr, sur ce qui se passe dans nos cerveaux quand nous sommes face face à une œuvre d'art. Hein, mais demandons-leur ce qu'elles peuvent, et pas plus.
Là encore, Denis, alors peut-être un petit exercice de définition, on aurait peut-être dû commencer par là, mais plions-nous à cet exercice maintenant, si vous voulez bien, à 13h05, sur les sciences cognitives. De quoi on parle en fait ? Est-ce qu'on entend hein, neurosciences, psychologie, ça recouvre un certain nombre de champs.
Alors oui, en effet, les sciences cognitives regroupent un peu une nébuleuse de disciplines scientifiques. Hein. Évidemment, il y a les neurosciences, mais ce ne sont pas les seules sciences des sciences cognitives qui composent cette nébuleuse, mais on y trouve aussi la psychologie cognitive, la psychologie du développement, par exemple. Et leur objectif, hein, l'objectif de toutes ces sciences, c'est d'étudier la manière dont notre esprit ou notre cerveau, c'est la même chose, traite les informations qui nous proviennent de notre environnement et nous font nous comporter en fonction de ces informations.
Alors tout ça, c'est très bien, on ne peut pas vraiment être contre, si vous voulez encore dénier, mais le problème, c'est en effet, comme vient le souligner Hervé Mazurel, quand la corrélation devient une causalité, c'est-à-dire quand on essaye d'expliquer systématiquement tel ou tel comportement social, telle ou telle situation, même sociale, par des comportements neuronaux, par des schémas, par notamment, on peut penser à un outil comme l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'IRM comme on connaît, hein, l'imagerie à résonance magnétique, mais qu'on va utiliser sur des sujets à qui on demande justement de regarder un tableau ou de penser à telle ou telle chose, et on va en déduire un certain nombre de présupposés, mais là, à ce moment-là, sur la vie sociale.
Oui, ce qui se passe, c'est que, en effet, les sciences cognitives commencent de plus en plus à s'intéresser aujourd'hui à un certain nombre de questions qui intéressaient traditionnellement les sociologues ou les anthropologues. C'est là que la friction naît, en fait, avec la sociologie aujourd'hui. Tant que les sciences cognitives s'intéressaient à la mémoire et, ou je sais pas, à l'audition, ça ne paniquait pas spécialement les sociologues. Aujourd'hui, la question est un peu différente parce qu'ils se saisissent d'objets comme les relations entre genres, etc., qui peuvent paraître propres au domaine de la sociologie. Alors moi, ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est qu'il y a une complémentarité possible entre ces approches. Il ne faut en effet pas demander aux sciences cognitives d'expliquer des choses qu'elles ne sont pas à même d'expliquer. Par exemple, certaines variations de certains types de phénomènes. Pourquoi dans telle société, l'inceste, par exemple, fait l'objet de tabous et dans telle autre société, ça fait l'objet de lois qui l'interdisent. Pourquoi l'inceste est considéré comme, enfin, une relation est considérée comme incestueuse au premier ou deuxième degré en fonction de la société, etc. Ce que nous montrent les sciences cognitives, c'est que, puisque les sciences cognitives s'ancrent très profondément dans la biologie de l'évolution, hein, ça, je pense que c'est vraiment un noyau central. Ce que montrent les sciences cognitives, c'est qu'on a une disposition à éviter l'inceste, et ce que peuvent venir expliquer en plus les sciences sociales, que ce soit l'anthropologie ou la sociologie, ou l'histoire d'ailleurs, c'est pourquoi dans telle société ça prend cet évitement de l'inceste prend telle forme particulière, pourquoi dans tel groupe social il est vécu, interprété de telle façon, etc.
Vous avez d'ailleurs un exemple que vous développez toujours dans cet ordre des relations de pouvoir et des relations de domination sur les agressions sexuelles. Vous citez Peggy Sastre sur cette on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais Hervé Mazurel, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur, parce que c'est peut-être le péché originel finalement des sciences cognitives et ce qui crée toute cette méfiance du côté des sciences humaines, c'est justement de s'ancrer dans cette idée de l'évolution et donc une sorte de darwinisme social, en tout cas c'est l'accusation qu'on peut lui porter, qui a donné la sociobiologie, qui a donné par exemple des théories voilà comme celle de Richard Dawkins voilà sur le gène le gène égoïste, enfin voilà c'est aussi ça qui pèse probablement sur les sciences cognitives. On aura l'occasion d'y revenir.
C'est certain, ça pèse énormément, et en même temps je pense vraiment que il faut non seulement sortir des carcans disciplinaires à l'intérieur des sciences humaines, mais aussi entre sciences de la vie et sciences sociales. Entre le biologique et le social, il y a deux divorces qui coûtent beaucoup aux sciences humaines. Le divorce entre le sociologique et le psychologique, et de l'autre côté, entre le biologique et le social. Il y a une frontière à ouvrir. Norbert Elias, justement, c'est vraiment... Il y a un texte inédit
qui ouvre le document, qui va
vraiment dans ce sens-là. Norbert Elias pense les êtres humains comme des purs devenir, et il veut essayer de mettre en place une science unitaire de l'homme qui prenne en compte à la fois l'évolution biologique des espèces, les processus socio-historiques humains de longue durée, le processus de civilisation, la construction d'État, et l'évolution psychique des individus. Hein, et de corréler, bien sûr, ce sont trois temporalités très différentes, trois rythmes très différents, mais des évolutions qu'il faut corréler, qu'il faut penser ensemble, et qui nécessitent donc de rapprocher la biologie et les sciences sociales. Hein, il me semble qu'il faut se situer dans ce dépassement-là, et c'est pour ça que c'est très important ces ponts entre les sciences sociales aujourd'hui et les neurosciences. Mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe comment, mais il y a des endroits où on peut discuter, où on peut avancer.
Là encore, Denier ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est le moment d'essayer de dépasser vraiment ces clivages, parce que en fait, ce qu'on observe un peu. Donc moi, j'ai fait des expériences de psychologie cognitive développement également, et en même temps, je suis sociologue. Donc ce que j'essaie de ce qui m'apparaît en fait entre les deux disciplines, c'est que il y a une différence de focale sur l'intérêt. Les sciences cognitives vont s'intéresser plus fondamentalement aux invariants, aux invariants qu'on constate entre les différentes cultures, entre les différentes époques, entre les différents groupes sociaux. Les sciences cognitives, les sciences sociales, pardon, mettent jusqu'à présent beaucoup plus l'accent sur les variations. Elles vont considérer que ces variations intergroupes ou intercultures sont le cœur de leur objet. Et je pense qu'une fois qu'on voit ça sous cet angle-là, on peut voir la complémentarité possible des deux approches.
Alors il y a un article dans ce numéro, Hervé Mazurel, dans ce numéro de Sensibilité, il y a un article de Lisa Feldman-Barrett, justement, qui elle est neurobiologiste, neuroscientifique, ouais. Voilà, psychologue cognitive, et qui s'intéresse à la construction des émotions, qui montre à quel point ces émotions sont situées. Alors on retrouve là finalement un mouvement qui est aussi un mouvement dans les sciences, qui est celui de l'épigénétique, qui montre en fait comment ce qui semble prédéterminé par la nature s'exprime en fait dans un contexte.
Alors c'est vraiment un article cardinal dans le numéro pour nous, hein, puisque c'est le lieu d'une rencontre possible entre des sciences sociales de l'émotion et les neurosciences affectives. Hein, mais Lisa Feldman-Barrett, avec d'autres neuroscientifiques américains comme James Russell, ont opéré vraiment un tournant par rapport à une vieille théorie dont on parle beaucoup dans ce numéro, la théorie des émotions de base. Hein, comme quoi il existerait 6 émotions de base universellement partagées en tout temps, en tout lieu, qui existeraient. Voilà, la théorie de Paul Ekman. Elle insiste sur une hypothèse récente dans les neurosciences, cerveau bayésien, le cerveau serait prédictif et non pas tant prescriptif, mais ça change tout, prédictif, hein, parce que du coup elle intègre comme aucun neuroscientifique auparavant, me semble-t-il, le langage dans l'appréhension du rapport aux émotions, et elle parle de co-construction des émotions, c'est-à-dire que il faut déjà commencer par reconnaître l'émotion en soi, et ça suppose d'avoir une conceptualisation des émotions, hein, avoir le concept pour la reconnaître, et puis pour qu'ensuite les autres la reconnaissent. Et donc il y a comme un jeu d'interaction entre les individus pour savoir exactement de quelle émotion s'agit-il, hein, dans l'interaction qui se joue. Hein, c'est un ajustement social en quelque sorte qui s'opère, et ça c'est un tournant constructiviste dans le rapport des neurosciences aux émotions, et on peut tout à fait rencontrer les entreprises, les historiens, les sociologues ici, avec les neuroscientifiques. Et donc c'est vraiment un article clé, et c'est la première fois qu'elle est traduite en français, et elle prend de l'importance aux États-Unis, je pense qu'elle va compter.
Laurent Cordonnier, c'est aussi une idée qui est dans votre livre, hein, la capacité à reconnaître l'émotion chez l'autre, c'est au fondement de la société.
Oui, tout à fait. Alors peut-être juste préciser que ce tournant, en fait, cet intérêt pour les sciences cognitives pour les émotions n'est pas si nouveau que ça. On a un tournant qu'on appelle les sciences cognitives chaudes, la cognition chaude, hein, qui est justement nourrie d'émotions et pas uniquement de calculs. On a abandonné depuis assez longtemps ce modèle strictement froid de la cognition, qui serait un simple système de calcul. Et donc ça, c'était juste la petite parenthèse sur ce sujet-là. Mais en fait, les sciences cognitives se sont intéressées depuis fort longtemps, en fait, à l'apport, à la façon dont on va pouvoir apprendre de notre environnement social. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition au sein des sciences cognitives, et y compris des neurosciences, sur cette idée que l'environnement ne compterait pas. Ça, c'est une image qu'on peut avoir de l'extérieur quand on regarde les sciences cognitives, mais c'est pas vrai du tout. Les sciences cognitives se sont toujours intéressées à la façon dont on peut apprendre notre environnement social. Juste pour donner un exemple, tout un domaine important de la psychologie cognitive actuellement, qui est la psychologie cognitive du développement, s'intéresse à la façon dont, à partir d'un certain nombre de pré-câblages cognitifs, de core knowledge, comme on dit en anglais, donc de connaissances de base, si on veut, à partir de ces connaissances-là, que nous avons hérité, si on veut, biologiquement, tous les individus naissent avec ces intuitions originelles. Et en fait, ce que nous montre la psychologie du développement, c'est comment ces connaissances de base vont nous permettre, en fait, d'apprendre de notre environnement social. Donc notre système cognitif, s'il est en partie inné, si l'on veut dire comme ça, c'est pour nous permettre d'apprendre de notre environnement, et y compris, et de façon massive, de notre environnement social.
Donc ce que je comprends finalement de ce que vous dites l'un et l'autre depuis le début, Hervé Mazurel et Laurent Cordonnier, c'est que ce dont souffrent à la fois les sciences sociales et les sciences cognitives dans cette relation un peu conflictuelle qu'on leur applique, c'est plutôt les idées qu'on en tire, c'est-à-dire le discours médiatique qui entoure, plutôt que la réalité. qualité des recherches, Hervé Mazurel.
Oui, je pense d'abord qu'il y a une grande méconnaissance. Je pense que les neuroscientifiques lisent assez peu les sciences humaines parce qu'ils n'ont pas les techniques d'imagerie cérébrale et donc on va nécessairement les dépasser. Et inversement, il y a tout un tas d'appréhensions de l'autre côté. Et en même temps, je pense qu'il est très important. Moi, ce que je n'aime pas dans le discours parfois des neurosciences, c'est un discours d'autorité scientifique ou d'autorité morale aussi parfois. Voilà, la science parle, hein, mais simplement là, il faut envoyer ce qu'on fait aujourd'hui, hein, des anthropologues ou des sociologues dans les labos de neuroimagerie pour voir comment on fabrique ces cartes cérébrales. Elles ne sont jamais neutres. Hein. Il y a plein d'opérations qui ne sont pas que des opérations purement scientifiques. Il faut aller voir, il faut une ethnographie de laboratoire hein, pour savoir comment, comment ce savoir se construit, se configure et pour faire tomber un tout petit peu les certaines prétentions parfois des neurosciences. Hein, ça me paraît très important pour ne pas laisser croire que la science parle à travers elle.
Oui, Laurent Cordonnier, on retrouve là la fameuse question de l'objectivité. Et donc, il y aurait une forme de supériorité, de scientificité supérieure des sciences cognitives sur les sciences sociales parce que elles font appel à l'expérience, par exemple, en laboratoire et donc reproductible, ce qui n'est pas forcément le cas, à part peut-être en psychologie. C'est pareil pour la psychologie d'ailleurs cognitive. Il y a des expériences qu'on estime reproductibles et ce qui valide les résultats, ce qui n'est pas forcément le cas des sciences sociales. Et ce que disent de leur côté les défenseurs des sciences sociales, puisqu'on est dans cette opposition, c'est que, en fait, derrière cette apparence de scientificité et d'objectivité, il y a tout un tas de présupposés qui sont aussi une orientation, et on va jusqu'à opposer, même politiquement. Il y aurait une approche de gauche, une approche de droite, en
quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, de façon assez amusante, ça a été politisé, donc je ne sais pas très bien pourquoi. Mais en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que, de mon expérience en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que cette image des sciences cognitives ou des neurosciences comme étant des sciences dures et de la sociologie comme étant une science molle, c'est une image que je n'ai jamais retrouvée moi chez les neuroscientifiques et les psychologues avec lesquels j'ai travaillé. C'est plus une image, c'est plus à mon avis une image qui est partagée dans le grand public plus que chez les chercheurs eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand j'ai débarqué en tant que sociologue de formation dans des laboratoires de sciences cognitives, non pas pour observer la façon dont ils travaillaient, mais pour travailler avec eux, ça serait aussi très intéressant. D'ailleurs, il faut le faire hein, d'observer leur façon de travailler. Mais j'étais pas là pour ça. J'étais là pour travailler avec eux. Les premières réactions que j'avais quand on me présentait à mes collègues neuroscientifiques et psychologues cognitifs, c'était de dire « Ah cool, il y a un sociologue maintenant dans le labo, on a plein de questions pour toi ». Et en fait, malheureusement, j'étais pas forcément toujours assez assez pointu pour répondre à leurs attentes, mais du côté des sciences cognitives, il y a une attente d'un apport possible de la sociologie pour eux. Parce que dans mon livre, j'insiste plus sur l'apport possible des sciences cognitives aux sciences sociales. Mais les sciences cognitives peuvent aussi être enrichies, et ça c'est très important de le souligner, par les sciences sociales. Et les cognitivistes, en tout cas que j'ai rencontrés, sont très demandeurs de ce genre d'enrichissement.
France Culture. La grande table. Raphaël Bourgois.
Stop. We'll be right back.
Where is my man, les Pixies, puisqu'on parle aujourd'hui du cerveau et des émotions avec Laurent Cordonnier, qui est sociologue et qui publie aux Presses universitaires de France La nature du social, l'apport ignoré des sciences cognitives, et l'historien Hervé Mazurel, qui coordonne avec d'autres le dernier numéro de la revue Sensibilité, controverse sur l'émotion, neurosciences et sciences humaines. Ce qui est au cœur de la discussion qu'on a depuis le début de cette dernière partie de la Grande Table, Hervé Mazurel, Laurent Cordonnier, c'est évidemment l'idée qu'on se fait de l'homme rationnel qui agit, qui est un acteur de sa vie, ou bien d'un homme, d'une illusion finalement de cette rationalité, et d'un homme qui est plutôt pris dans un réseau de contraintes, qui est, agit, qui est un agent du social. On retrouve là encore, vous avez parlé de Boudon et de Bourdieu tout à l'heure, Laurent Cordonnier, on retrouve toujours cette distinction-là. Est-ce que c'est vraiment une distinction qu'on peut dépasser par cette rencontre des sciences cognitives et de la sociologie par exemple?
Oui, je pense que c'est une distinction qu'on peut et qu'on devrait dépasser en fait.
Vous avez tout un développement sur l'habitus par exemple. Donc vous prenez la thèse bourdieusienne de l'habitus, que vous allez nous rappeler en deux mots, vous le ferez beaucoup mieux que moi, et vous montrez comment les sciences cognitives peuvent soit la démontrer et aussi peut-être aller un petit peu plus loin, ou en tout cas la sociologie peut aller un peu plus loin. Enfin voilà, il y a un échange entre les deux.
En effet, Pierre Bourdieu a conceptualisé cette notion d'habitus qui serait en fait, en quelque sorte, comme il le disait lui-même, le social qui s'inscrit en l'être humain. C'est-à-dire que nous acquérons au cours de notre processus de socialisation un certain nombre de dispositions qui varient en fonction de l'environnement social dans lequel on grandit. Et ces dispositions s'incorporent, pour reprendre le terme bourdieusien. Donc ça devient en quelque sorte une seconde nature chez l'être humain. Des dispositions d'action, des dispositions à réfléchir le monde, à le percevoir. On est, d'après Bourdieu, et il a très certainement raison sur cette question-là, on n'est pas forcément conscient de ces dispositions qu'on acquiert par socialisation. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, en effet, en recourant en l'occurrence à une expérience que j'ai conduite avec des collègues du CNRS à Lyon, une expérience de psychologie cognitive, j'essaie de montrer que les sciences cognitives permettent de tester une hypothèse comme celle de l'incorporation bourdieusienne. Parce que cette hypothèse de l'habitus, c'est une hypothèse, en fait, essentiellement psychologique. C'est une hypothèse sur la façon dont le social vient s'inscrire dans l'esprit ou dans le corps de l'être humain. Donc il s'agit, d'après moi, ou en tout cas on peut bénéficier des sciences cognitives pour tester et peut-être creuser un peu plus cette hypothèse. Et pour la petite histoire, en l'occurrence, l'expérience que j'ai conduite tend à corroborer cette hypothèse bourdieusienne de l'inscription dans le corps d'un certain nombre de dispositions. Maintenant, on peut aller plus loin, essayer de voir où ça s'inscrit, comment ça s'inscrit, comment ça change quand ça change, quels sont les effets de socialisation plus tardifs qui peuvent modifier ça, etc.
etc.
Oui, non, je vous croise totalement ici. Hein. J'étais très surpris en découvrant un peu ce champ des neurosciences de l'émotion, des résonances avec la notion d'habitus, hein, comme social incorporé, comme culture intériorisée. C'est-à-dire que, en fait, ce dont on parlait un peu tout à l'heure du cerveau prédictif, le cerveau bayésien, hein, c'est très lié à ça finalement. Tout un stock d'habitudes qui sont tellement intériorisées, cette seconde nature, qu'on n'y pense plus, qu'on agit hein, sans même y penser dans le monde social. Et là, il y a vraiment une connexion possible entre les neurosciences et cette sociologie du corps et sociologie de l'habitude. Je suis totalement en phase avec ça. Je crois que c'est un vrai chantier d'avenir.
Ouais. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, simplement que je pense vraiment la théorie bourdieusienne actuelle est certainement l'un des meilleurs lieux de contact entre la psychologie cognitive.
On pourrait penser l'inverse. Hein.
Alors, c'est d'ailleurs, vous m'aviez introduit comme étant un individualiste.
Voilà, vous voyez.
Mais en effet, peut-être
chez Bernard Lahire aussi des choses assez proches.
Bernard Lahire d'ailleurs.
Oui, donc Bernard Lahire qui serait un peu le chantre du camp holiste quand Gérald Brunner, qui est l'éditeur de votre livre, serait plutôt du côté analytique et qui avait publié ce livre sur le danger sociologique qui était publié l'année dernière, je crois, aux Presses universitaires de France.
Et Gérald Brunner essaye de montrer de son côté individualiste comment les sciences cognitives peuvent aussi intervenir en s'appuyant sur les biais de raisonnement, en fait, les biais cognitifs qui viennent entacher de façon inévitable nos raisonnements les plus courants.
Mmh. Notamment le fameux biais d'agentivité, c'est-à-dire qu'on prête toujours une intention aux acteurs ou aux sociétés qu'elles n'ont pas forcément. Hervé Mazurel, il y a un article passionnant et assez long d'Alain Ehrenberg qui ouvre aussi, enfin qui est après l'article de Norbert Elias et qui fait un peu cette histoire finalement de notre relation de la relation entre sciences sociales et sciences cognitives, du rapport à l'esprit.
C'est un article qui évite les controverses un peu dont on parle, là, qui les contourne en quelque sorte, mais pour essayer de montrer que les neurosciences disent quelque chose de l'âge collectif dans lequel on vit, elles disent quelque chose de nous-mêmes et notamment de cet âge individualiste hein, qui est le nôtre. Et pour lui, voilà, les neurosciences, comme toute science, elles ne sont pas neutres, elles sont imprégnées de valeurs morales, hein, et qu'il y a donc, et d'idéaux sociaux, hein, il y a des, entre les concepts scientifiques des neurosciences et nos idéaux sociaux, il y a une correspondance qui ferait en quelque sorte le succès des neurosciences aujourd'hui. Et notamment, la défense, selon lui, hein, d'un individualisme tourné autour de l'idée que, en gros, un individu doit pouvoir transformer ses handicaps en atouts grâce à son potentiel caché. Il y a une notion clé ici qui est celle de plasticité cérébrale. Hein, justement, ce potentiel caché, il est dans la plasticité cérébrale. C'est vrai que cette notion qui est très importante, je pense qu'elle peut servir au moins pour un temps d'interface entre les neurosciences et les sciences sociales. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que l'apprentissage, hein, j'espère ne pas me tromper, l'apprentissage a un effet retour sur la structure et l'activité du cerveau, que l'expérience vécue façonne, sculpte le cerveau. Et donc là, vous avez une plateforme, en quelque sorte, de rencontre entre le biologique et le social, entre les sciences cognitives et les sciences sociales.
Non, Cordonnier ?
Oui, et en même temps, on en fait tout un froid de cette affaire de plasticité cérébrale. Ça veut juste dire qu'on est capable d'apprendre.
Ouais.
C'est tout. Et l'apprentissage se manifeste dans le cerveau par des reconnexions synaptiques, bien sûr.
Quand ne se manifeste pas aussi de la même façon selon les cerveaux. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, et c'est ce qu'on pensait à une époque, il y avait des aires qui étaient dédiées dans le cerveau à tel ou tel champ, les émotions, la motricité, la cognition, la mémoire, etc. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui avec la plasticité cérébrale, c'est que par exemple, quelqu'un qui a subi une atteinte physique, un AVC qui a endommagé son cerveau, peut reconstruire ses aires ailleurs, et donc ce n'est pas des aires forcément dédiées.
Oui, tout à fait. Alors ça a permis de revenir un peu cette idée très très géographique, très topographique, oui, du cerveau,
mais en même temps, c'est le langage,
voilà. Tout à fait, mais en même temps cette capacité de reconfiguration d'espaces cérébraux qui ne sont pas dédiés à une fonction à l'origine sont quand même relativement limitées. Ce qu'on constate, ouais, c'est que les aires qui sont recrutées lorsqu'il y a une aire qui a été lésée sont des aires connexes ou qui ont des fonctions proches. Donc la notion de plasticité est à mon avis plus intéressante pour les neuroscientifiques que pour les sociologues, pour qui c'est plus un peu une évidence, oui, on apprend du monde.
Oui, bien sûr.
Alors, vous avez, juste pour terminer, puisque il faut faire quand même deux, trois propositions, et vous en faites, Laurent Cordonnier, à la fin, et vous avez notamment cette idée de ce que vous appelez l'approche naïve, c'est-à-dire une physique naïve, une biologie naïve, une psychologie naïve, et donc même une morale naïve, et donc c'est ça qui permettrait, dans l'apport des neurosciences à la sociologie, de faire cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Oui, tout à fait. Alors, les théories naïves, hein, comment on les appelle, ce n'est pas du tout mon fait, hein. C'est une position très bien ancrée en psychologie cognitive. C'est cette idée, en effet, qu'on aurait certains noyaux de connaissances qui nous permettraient d'appréhender certains types de stimuli dans notre environnement, donc des stimuli biologiques ou des stimuli sociaux, etc. L'idée, surtout, je pense, c'est que ce que j'essaye de montrer, c'est comment les sciences cognitives aujourd'hui nous permettent de nous intéresser à des questions centrales pour les sociologues, comme celle de la socialisation. La socialisation, c'est un concept qu'on utilise à toutes les sauces en sociologie. C'est presque le concept princeps, la façon dont la société vient nous informer et nous former en tant qu'individu. Le problème, c'est que ça reste une boîte noire en sociologie. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, cette socialisation, comment ça se passe, comment ça marche. Et j'essaye de montrer dans mon livre que les sciences cognitives peuvent peut-être nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de cette socialisation.
Oui, non, la question des socialisations intéresse aussi beaucoup les historiens. Hein, comment le social vient s'inscrire sur des câblages. C'est pas une des thèses de Norbert Elias, c'est-à-dire, nous sommes par nature faits pour vivre en société. Ça rejoint complètement à votre thèse, parce que le cerveau est pré-câblé pour vivre en société. Et c'est pour ça que dès qu'un individu n'est pas socialisé, je pense aux enfants sauvages ou aux enfants placards, tout d'un coup, il est nécessairement conduit en marge et il rate des fenêtres d'opportunité et d'apprentissage. L'apprentissage du langage, notamment, et qu'à partir de là, il y a des moments opportuns pour les apprentissages et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, ce que proposait justement Norbert Elias, c'est voilà, il faut penser ensemble les processus de maturation biologique et les processus sociaux d'apprentissage. Hein, c'est cette connexion-là qui est absolument capitale dans la socialisation des enfants.
Eh bien, merci à l'un et à l'autre, Laurent Cordonnier, Hervé Mazurel. On n'a fait qu'effleurer toutes les possibilités de la discussion, mais au moins, on a une discussion, je dirais, constructive et sans opposition basique. Je rappelle rappelle Laurent Cordonnier, La nature du social, l'apport ignoré des sciences cognitives. C'est aux presses universitaires de France. Hervé Mazurel, Controverse sur l'émotion, neurosciences et sciences humaines. C'est donc la revue Sensibilité publiée chez Anamosa. Et vous préparez un livre sur l'inconscient au risque de l'histoire. Ce sera à la Découverte courant 2019.
J'espère bien.
On espère et votre éditeur aussi l'espère. Merci à toute l'équipe, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérèche, avec l'aide de Jordan Joseph et Jeanne Copé à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Milena Elig à la prise de son d'Ali Yaha. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Lundi, ce sera le retour d'Olivia Gesbert et dans quelques instants, Les Pieds sur Terre.